Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et pendant une heure, on décortique l'actu tech de ce mardi soir avec, sur le plateau de Tech & Co, André Losgood-Pietri qui est avec nous. Salut André.
Salut François.
Merci d'être là. André qui est président du JEDI, le Joint European Disruptive Initiative. Et à tes côtés, c'est Clément David. Salut Clément.
Salut.
Le président de Théodo Cloud et Frédéric Simotel.
Salut à tous. Salut,
voilà, François. Frédéric Simotel, président d'RMC. Qui est journaliste à...
CNews.
Alors, non.
Pas du tout.
Avant C, il y a quoi? Il y a B, c'est ça?
BFM, président de BFM. Incroyable.
Voilà, président de
BFM. La promotion
c'est
ce
ça,
soir.
C'est ça, bien sûr, évidemment. Alors, journaliste et émérite tech dans notre belle maison. Tout va bien, Fred, ça va?
Tout va bien. On se disait ça tout à l'heure. On a des actus qui tombent. On pourrait faire trois Tech & Co dans la journée.
Mais évidemment. Alors, on sera un peu fatigué à la fin.
Oui.
Surtout Clément. Mais écoutez, on tient le coup.
C'est gratuit.
C'est comme ça.
Pas de problème.
On va commencer par Anthropic, qui va donc bien faire son entrée en bourse. La maison mère de l'IA Claude a envoyé son dossier à la SEC, à la SEC, le gendarme des marchés aux États-Unis. Et tout ça va très vite. La semaine dernière encore, le groupe avait levé 65 milliards de dollars, de quoi frôler les 1000 milliards de valorisation. Étienne Brack nous en parlait sur BFM Business et on revient juste après sur ce plateau.
Plus que OpenAI, la maison mère de ChatGPT, car ces dernières semaines, les revenus de l'entreprise ont explosé. Hier, Anthropic, dans le dossier qu'ils ont déposé en bourse, ont annoncé réaliser 47 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, contre 14 en février, d'où la valorisation qui a explosé la semaine dernière lors du dernier tour de table. Et pour répondre au contrat signé, il faut des capacités de calcul, des data centers et donc de l'argent pour financer tout cela. Ces derniers temps, ça se faisait beaucoup sur le non-coté et donc là, désormais, ça va se faire sur le marché boursier. Les banquiers et les analystes évoquent environ 65 milliards de dollars. C'est le montant qui pourrait être levé. Hier, le groupe n'a pas communiqué ce montant. Un montant qui serait donc proche des 75 milliards de dollars que compte lever Elon Musk avec SpaceX. Pour rappel, le compte à rebours est en train de tourner puisque ça sera le 12 juin que SpaceX va rentrer en bourse.
Alors
tout ça est encore confidentiel, mais pas tant que ça finalement, parce que tout le monde est au courant. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment il y a cette course aux géants de l'IA qui veulent véritablement passer l'étape supérieure et en fait se valoriser en bourse, effectivement. Et avec cette introduction, en fait, Anthropic passe devant OpenAI en termes de valo. C'est ça qui est incroyable. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus parce que on a l'impression que il y a des mouvements de plaques tectoniques en ce moment. OpenAI était il y a encore quelques semaines le numéro un qui était indéboulonnable. On a l'impression que tout ça est en train de changer et je voulais avoir votre avis. Clément, pour commencer.
C'était les numéros. Ça fait quelques temps qu'ils ont été dépassés, notamment en termes de revenus par Anthropic. C'est ça qui est terrifiant. Il faut voir qu'Anthropic, l'année dernière, c'était en annualisé en mai de l'année dernière, 2025, c'était 9 milliards de revenus. Là, on est à 45 milliards. Donc la croissance est folle.
Ça explose.
Ça explose. Et l'idée, en fait, c'est il y a un peu cette bataille d'entrée en bourse, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être le premier? C'est la question. C'est-à-dire que d'un côté, tu te dis, t'es le premier, déjà, t'aspires la liquidité. Parce que les fonds ont l'air infinis, ils le sont pas. Entre SpaceX, OpenAI et Anthropic, celui qui va arriver premier, deuxième, troisième, il n'y aura pas forcément les mêmes fonds disponibles.
Et puis c'est un moment où tu es bankable en plus. Anthropic a une très bonne
momentum. Ouais. Après, la question c'est, est-ce que ça vaut le coup d'être premier? C'est-à-dire que si tu es premier, la bonne nouvelle c'est que tu récupères les fonds, mais en plus, tu définis un peu les règles comptables du marché. C'est-à-dire que tu dis au marché, voilà les KPIs que j'ai envie de mettre en avant, voilà ce que je veux montrer aux investisseurs sur comment on calcule la valo d'une boîte IA, ce qui est absolument nouveau parce qu'on est incapable de le faire aujourd'hui. En revanche, tu es aussi le premier à montrer tes cartes. Tu es aussi le premier à tester le marché sur des systèmes un peu étranges qui eux aussi n'existent que dans le monde de l'IA, du style ce qu'on appelle les compétiteurs. C'est-à-dire que OpenAI, mais Anthropic, c'est pareil, c'est Anthropic manifestement qui risque de s'y frotter en premier, va devoir défendre un modèle où quand même tes deux plus gros actionnaires sont aussi tes deux plus gros fournisseurs, ceux des cloud providers, sont aussi tes deux plus gros compétiteurs. Donc, comment le marché va pricer ça? Si t'es premier, oui, il y a la liquidité, oui, tu définis un peu les règles du jeu, mais t'es Anthropic, mais OpenAI derrière va regarder en se disant, on va voir comment le marché réagit à ça. Donc la grande question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'être premier ou pas? Ça va être la première question qu'on va se poser.
André?
Mais la bourse, pour beaucoup de ceux qui nous regardent et pour beaucoup d'entre nous, c'est parfois, il y a un côté spéculatif, mais là, il faut aussi voir le fond quand même assoit cette IPO. C'est quand même pas une surprise pour la plupart d'entre nous. Ça fait maintenant 3-6 mois que Claude a vraiment, donc le modèle d'Anthropic a vraiment pris le dessus en termes de qualité, de résultats, de pertinence, probablement d'hallucination aussi ou de non-hallucination. Donc aujourd'hui, il profite de ça. Et donc c'est probablement ça qui explique la multiplication par 5. Enfin, ça c'est jamais vu, ça. Passer de 7, 8 à 45 milliards, c'est quand même une énorme preuve que cette fameuse bulle IA, je rappelle, il y avait plein de commentateurs, peut-être même ici autour de ce plateau, qui parlaient de bulle IA il y a 6 mois, bah, aujourd'hui c'est quand même des revenus tangibles. Et les clients, c'est oui, il y a certes un espèce de revenu qui vient des partenaires, mais il y a quand même aussi de plus en plus d'industriels, de grandes entreprises qui utilisent massivement pour, à minima, accoutumer leur employés à l'IA. Donc c'est quand même une vraie réalité.
Il faut voir si la part du gâteau sera assez grande pour nourrir tout le monde.
Donc là, il y a cette chose-là. Et l'autre chose, rappelez-vous, hier, on a célébré en France les 75 milliards d'investissements de SoftBank sur 5 ans sur des data centers. Je rappelle quand même que les grandes LaTeX américaines, cette année, vont mettre 750 milliards ou 725. Donc, c'est à peu près...
Google a annoncé une levée de 80 milliards.
Pour financer ce matin essentiellement ces data centers. Samsung, en parallèle, distribue 300 000 dollars à chacun de ses employés. C'est 6 fois le salaire annuel.
À 50 000 employés, je crois, en plus.
Parce que... Oui, 70 000, en fait.
Non, 70 000.
Mais parce que, justement, les mémoires, qui est également aspirée par cette vague des data centers. Donc, tout cet argent qui est en train d'être levé. Donc, je pense qu'Anthropic, effectivement, a pris de vitesse et va permettre d'aspirer quand même une grande partie et va prendre... C'est stratégique, c'est à la fois pour montrer qu'on est leader sur le fond, mais va prendre un avantage sur cette courbe de vitesse de l'investissement. Donc c'est assez remarquable ce qui se joue en ce moment.
Clément, ouais. Et après Fred.
Juste désolé Fred, juste avant sur la partie bulle de l'IA. Il y a des revenus, la question c'est, la bulle c'est sûr et certain qu'elle existe. La question c'est, est-ce que les revenus couvrent les investissements ? Et justement, quand tu vois les revenus et les montants des levées, tu vois bien que les montants des levées sont quand même 10 fois supérieurs. En revanche, tu te dis sur une projection de chiffre d'affaires futur et ça. Mais quand tu vois la bulle Internet, par exemple, il y avait des revenus. Google, ils avaient des revenus. Amazon, ils avaient des revenus. Ça n'empêche pas qu'à un moment, le marché passe par une phase de rationalisation où tout à coup, la valo des boîtes est divisée par 5. On remet un petit coup de rationalité.
Je rappelle quand même que la plupart des IPO de l'année 2000-2001, et malheureusement, on est tous assez vieux autour de cette table pour s'en rappeler, les revenus qui venaient d'Internet, c'était quelques centaines de milliers, millions d'euros. Là, on parle de 7 à 45 milliards.
Mais quand tu regardes, les investissements n'étaient pas du tout du même ordre non plus. Certes. Et en fait, la décorrélation reste exactement la même.
Là, moi, ce qui me frappe, c'est que là, aujourd'hui, où est-ce qu'ils gagnent vraiment de l'argent? Si j'en sais pas sur les abonnements et tout ça, ça va être sur le compute. On voit hein, Mistral, ils leur tardent. Il y avait leur journée la semaine dernière. Ils leur tardent. C'est pas les contrats qu'ils ont avec les entreprises aujourd'hui, parce que quand on voit les contrats, c'est beaucoup de des projets très verticaux. Alors super, hein, c'est parfait. Mais on voit qu'ils attendent impatiemment.
Oui, mais c'est pas le gros du business.
D'avoir leur gros data center qui vont tourner à plein régime pour avoir tout ce compute. Et là aujourd'hui, c'est un peu ça, un peu Anthropic, c'est ça, c'est avoir cet argent. Et aujourd'hui, l'argent qu'ils récoltent, il y a un gros écart quand même entre l'argent qu'ils investissent, le vrai chiffre d'affaires à côté, et le vrai chiffre d'affaires de logiciel, et puis après le chiffre d'affaires compute. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. Après, je trouve que moi, côté, si on regarde un peu les atouts pour OpenAI, donc croissance hors norme, enfin ça, ils
OpenAI ou Anthropic?
Anthropic, pardon. Croissance hors norme.
Parce que là, il faut faire attention.
Positionnement. Non, mais ils ont pris un positionnement très vite sur les entreprises, ce qui est pas mal, alors qu'OpenAI, on sent qu'ils essaient de tourner la barre, mais ils se disent, on aurait dû y aller sans doute un peu plus vite. Des partenaires stratégiques qui s'appelle Google Amazon. Voilà, on est quand même bon, même si les autres ont Microsoft, eux ils ont Google Amazon, puis c'est bien sérieux avec OpenAI, avec Microsoft, c'est un peu l'enfant terrible, on a besoin de redresser de temps en temps. On a des IA responsables, enfin c'est comme ça qu'ils le vendent Anthropic.
C'est comme ça,
c'est l'image qu'ils donnent.
Se sont positionnés
après, derrière,
de manière très
mal. Les risques pour OpenAI, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'aujourd'hui la valorisation
Anthropic
oui. Décidément, la valorisation elle est quand même délirante. La dépendance quand même à ce calcul, hein, faut voir, il faudra qu'il y ait des GPU qui arrivent pour continuer à rentrer du business. La concurrence quand même, hein, en face, c'est OpenAI, Google Gemini, enfin, il y en a d'autres qui vont arriver. Puis même sur des petits marchés, tu as plein de petits acteurs qui arrivent, des startups. Tu as une pression sur les prix. On ne sait pas où on va avec les prix quand même aujourd'hui. Hein. On nous parle du prix du token. Alors on dit, ah, c'est 0,7$. D'autres disent, c'est 1,70$. On entend les entreprises qui disent aujourd'hui, attendez, on a Microsoft hein, qui a coupé l'accès à Cloud.
Ouais, ouais. Copilot qui vient de dire, finalement, c'était un abonnement, mais maintenant, on va facturer au token.
Ouais.
Et quand tu as viré tes devs et quand tu dois maintenant
quand tu as un développeur qui a fait tourner 10 000 tokens dans la journée à 0,7$ ou à 1,7$, mais quand il y a un développeur, mais quand ils sont 200, tout d'un coup,
ça commence à faire beaucoup.
On va siffler un peu la fin de la partie, donc la pression sur les prix. La partie réglementaire, on n'est pas rentré là-dedans, mais est-ce qu'il peut se passer aussi quelqu'un qui va dire, attendez, vous voyez ce qu'a dit le pape, machin, on va commencer un peu à revoir un peu tout.
Il y a d'ailleurs une déclaration de sénateur américain aujourd'hui qui disait le hamburger américain est plus réglementé que l'IA. J'ai trouvé que la phrase assez percutante.
Mais tu vois, donc, on voit vraiment qu'il y a la partie, les atouts, hein, qu'on le sent, mais il y a quand même quelques risques, et quelques risques bon, que l'on peut attribuer aussi à OpenAI, que l'on pourra attribuer aussi à SpaceX, même si SpaceX avec X à l'intérieur, c'est plus général, puisqu'il y a l'espace, on en reparlera tout à l'heure. Mm-hmm. Mais voilà, c'est intéressant de regarder comment ça va se comporter. Et le premier, alors, il y a peut-être la prime au premier, mais il y a peut-être aussi le risque du premier qui peut un peu ralentir les investisseurs. Et puis, qu'est-ce qui va rester à tous les autres? Moi, je suis une petite start-up, je vais lever des fonds l'année prochaine. Je me dis, je vais lever des fonds l'année prochaine en IA. Je me dis, attends, qu'est-ce qui va me rester, moi aussi?
Mais c'est la partie super intéressante de cette levée, c'est la transparence. Parce qu'on est une boîte cotée. Quand tu veux être coté,
les gens ne se rendent pas compte. Ils n'ont pas donné leurs chiffres.
Mais ils vont être étudiés du sol au plafond. C'est-à-dire que les gens ne réalisent pas forcément que quand tu veux rentrer en bourse, tu déposes tes comptes, ils deviennent publics, etc. Mais surtout, ils sont audités dans tous les sens. C'est pas, tu vois, on va voir tous les candidats de la présidentielle qui vont débarquer en disant « Bon, mon programme, il va y avoir 37 milliards d'économies. » Hop, allez, c'est parti, personne ne vérifiera jamais, on s'en fiche. Là, c'est pas ça. Là, t'as KPMG qui va débarquer, qui va envoyer 400 mecs dans les locaux, ils vont regarder tous les papiers, et tu vois, c'est hyper intéressant. SpaceX, on a déjà, par exemple, vu la semaine dernière que, ou je sais plus quand exactement, on a parlé de leur document S1, là. Attends, vous avez un deal avec Anthropic, et vous payez 15 milliards par an pour avoir accès à 22 000 GPU SpaceX. D'accord. Et c'est combien de temps de préavis pour de votre côté pour résilier? À 90 jours. C'est-à-dire que potentiellement, à l'échelle de l'IA, c'est rien du tout pour se fournir en semi-conducteurs, en GPU, etc. C'est-à-dire que potentiellement, à 90 jours près, Anthropic se retrouve avec 22 000 GPU en moins pour faire tourner sa puissance de calcul, etc., etc. C'est des faiblesses qui vont apparaître de partout. C'est pareil, on parlait des comptes. Est-ce que votre ARR, c'est un vrai ARR, vos revenus, ou est-ce que c'est boosté par vos deals avec les gros cloud providers en circuit fermé? On va découvrir toutes les faiblesses potentiellement structurelles de ces candidatures.
Oui, en parallèle, on voit aussi que ces entreprises se sentent aujourd'hui suffisamment fortes.
Oui.
Et c'est le cas pour SpaceX. Ça va être pour SpaceX, où encore beaucoup de gens considéraient Starship pendant longtemps comme une espèce de rêve. Mmh. Aujourd'hui, en fait, l'IPO crédibilise presque le projet industriel.
Ils mettent pas tant que ça de leur capital en plus sur le marché. Et il faut voir que pour Anthropic, tu sais qu'Anthropic, s'ils réussissent leur... Non, c'est SpaceX. Si SpaceX réussisse son entrée en bourse, il y en a un qui empoche plus de 100 milliards de dollars, c'est Google, qui avait mis 15 milliards au début. Enfin, il y a plein... C'est ça qui est marrant. Et moi, je pense aussi pour Anthropic, quand tu montes comme ça, quand tu entres en bourse, t'as intérêt aussi de sacrément verrouiller tes meilleurs ingénieurs. Là, il faut plus d'engueulades à Sutskever chez OpenAI et tout ça. Tout le monde est dans le même bateau, les gars. On est parti pour 5 ans, on est tous ensemble et j'en veux pas un qui s'en va. Hein.
Voilà pour... Oui. Ouais, non, tu voulais truc, pour terminer sur Anthropic, après on enchaîne.
Hyper intéressant sur les valeurs. OpenAI s'est positionné comme l'IA responsable, sécurisée, etc., etc. Il y a quand même un petit paradoxe là-dedans, qui est ils ont une... Qu'est-ce qu'il y a?
C'est Anthropic qui s'est mis comme l'IA responsable.
Tu m'as filé le virus là.
Non mais c'est dingue.
Anthropic s'est positionné comme ça. En plus avec OpenAI, c'est un gros lapsus. Il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que soit ils ont pour ça une structure juridique super solide qui est très différente de celle d'OpenAI, on va pas rentrer dans le détail, mais qui est censée justement leur permettre de protéger ça. Le premier conseil que va leur donner JP Morgan, c'est de dire « Non mais vous allez me simplifier ces trucs, sinon ça va faire peur à tout le monde. » Soit ils acceptent de simplifier et à ce moment-là, ils se décrédibilisent et c'est leur produit d'appel, c'est leur positionnement marketing, y compris vis-à-vis des entreprises, c'est pas juste pour la population. Soit ils maintiennent ça, t'as quand même intérêt parce que t'as signé un papelard avec le pape. Quand tu t'es affiché avec le pape en disant on va faire ça, t'as quand même intérêt à tenir un peu ton truc. Et à ce moment-là, est-ce que ça risque de faire peur aux investisseurs?
C'est-à-dire le que... pape plus fort que Deloitte.
Pas mal, c'est ça. Dingue,
ça, j'espère.
Bref. KPMG.
Non, mais tu vois, ils ont un paradoxe. Est-ce que s'ils réussissent à faire fuir les investisseurs? C'est-à-dire que il y a une inconnue.
Et croyez-moi, des IPO, on va en parler hein, là dans les semaines et les mois qui viennent entre OpenAI, évidemment SpaceX, tu le disais, ça va pas se terminer comme ça. Dans l'actu, sujet un petit peu plus léger mais intéressant, vous savez que concernant Apple, il y a un monsieur qui a les informations en avant-première avant tout le monde, c'est Mark Gurman, qui est journaliste. Et moi, je suis fasciné par ce gars-là parce que toutes les informations qui sortent, les informations confidentielles d'Apple qui sortent, c'est lui qui les a. C'est fou.
Moi, je disais à François tout à l'heure, mais moi, je serais Tim Cook ou John Ternus aujourd'hui, mais je mets un détective privé.
Oui. Non, mais moi, je l'enfermerai, en fait.
Je focus sur lui, je le suis partout, je mets des trackers, je surveille toute sa famille.
Je pirate son iPhone pour écouter ce qu'il dit. On plaisante, bien sûr. Dernière petite information concernant Mark Gurman, qui en dit un petit peu plus sur la stratégie qu'est en train de mettre Apple en place concernant les lunettes connectées. Déjà, on apprend que c'est une priorité absolue chez Apple. Voilà, que ce soit Tim Cook qui va bientôt partir ou John Ternus qui est le nouveau CEO, c'est la priorité. Ils veulent prendre leur temps. Visiblement, ça devait sortir cette année. Ils préfèrent décaler d'une année pour avoir un produit aussi puissant, et c'est eux qui le disent, que l'Apple Watch. Car ils veulent véritablement recréer le succès de l'Apple Watch avec les lunettes connectées. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que au début, moi, je me souviens quand les Apple Watch
des montres aujourd'hui.
Voilà, les Apple Watch étaient sortis, on se disait mais Apple n'a aucune légitimité dans les montres. En fait, tout le monde aura toujours sa Swatch ou sa Rolex. C'est pas trop le problème du prix. C'est parce que tout le monde a l'habitude d'avoir sa propre marque de montre. Et en quelques années, Apple a mis tout le monde d'accord, et c'est aujourd'hui, tu le disais, le premier vendeur de montres au monde. Mmh. Et en fait, Apple aimerait bien réitérer ce scénario avec les lunettes. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une possibilité ? Est-ce que c'est aussi un marché un peu différent quand même, qui n'est pas aussi évident pour Apple que les lunettes ? Peut-être André pour commencer, et puis après Clément, Fred.
Alors, il y a quand même une grande différence, c'est que... pour le coup, la Meta a pris une longueur d'avance. Donc, ça serait un peu plus compliqué parce que Meta a réussi avec ses lunettes connectées avec Luxottica.
Ray-Ban Meta.
Ray-Ban, donc. C'est évidemment une prouesse software, mais c'est en fait, j'ai beaucoup parlé avec certains qui ont travaillé sur le projet, une prouesse hardware, parce qu'ils ont réussi pour la première fois à faire des lunettes où l'équilibrage entre l'endroit où il y a la batterie, les capteurs, l'électronique, etc., est extrêmement bien
équilibré, réfléchi.
Et donc on n'a pas ce sentiment là, on voit la Vision Pro là derrière, on n'a pas du tout ce sentiment de lourdeur qu'on avait sur toutes les, donc ça c'est quand même une vraie référence. Après, le marché est gigantesque hein, juste le marché des lunettes c'est 200 milliards de dollars, donc c'est quand même colossal. Ouais. Et dernière chose, tout le monde est à la recherche depuis longtemps de cette interface naturelle qui aujourd'hui est permis par la même puissance de calcul et la miniaturisation qu'on voit dans tout, d'avoir directement finalement quelque chose qu'on connaît bien dans l'automobile ou dans l'aéronautique, que je connais aussi un peu, c'est, on appelle ça la visée tête haute, où en fait pour les pilotes on a une surimpression sur le cockpit de l'information, on a ça dans quelques voitures aussi. Et c'est ça le coup que veut rejouer Apple. Donc, je crois qu'ils ont évidemment l'expérience du bracelet ils essayent de réitérer ce succès.
Et ils ont l'expérience des technologies qu'ils ont développées pour le Vision
Pro. Absolument.
Oui, c'est pour ça qu'on vous montre derrière le Vision Pro.
Mais il y aura un vrai sujet de miniaturisation et de hardware qui est pas gagné.
Voilà, si vous êtes avec nous derrière moi, il y a le Vision Pro. Pourquoi ? Parce que, au-delà de ces lunettes, Apple n'a pas abandonné le projet Vision Pro et essaie de sortir dans les années qui viennent un produit plus abordable, plus fin, plus léger, qui pourrait là véritablement apporter.
Et apparemment, il a sabré
cet affichage tête haute dont tu parles.
90% de ses budgets marketing sur la Vision Pro. Donc en fait, il y croit plus trop quand même.
Hein. Ouais, mais ça serait.
Il le pousse plus.
Malgré tout, je pense qu'il garde un peu en veille l'OS qu'ils ont mis en place parce que la technologie n'est pas encore prête pour miniaturiser tout ça et peut-être que ça arrivera demain. Clément, quel est ton point de vue ? Parce que moi, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant, c'est que malgré tout, les lunettes, c'est un marqueur stylistique hyper important.
Mais la montre aussi.
Les lunettes, tu les as sur ton nez.
Oui,
okay, mais la montre, ok, c'est statutaire, etc. Mais tu vois, il y a plein de gens qui prennent une montre bas de gamme simplement pour avoir l'heure parce que c'est pratique pour eux. Tu vois, là, la paire de lunettes, c'est vraiment quelque chose, c'est un marqueur, je dirais, statutaire, stylistique, important, tu vois.
Sachant que les Ray-Ban aujourd'hui, ils s'attaquent plutôt aux gens qui n'ont pas besoin de lunettes. C'est ça qui est assez marrant. C'est que le marché qui reste à conquérir, c'est le marché des gens qui.
Mais il y a plein de gens qui achètent des Ray-Ban Meta. Il y a plein de gens qui achètent des Ray-Ban Meta parce que c'est des Ray-Ban. Et que finalement, elles sont connectées, c'est un plus. Moi, j'ai des potes, ils ont des Ray-Ban Meta, mais ils ont oublié de les recharger, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, ils s'en servent comme de lunettes, finalement.
Les miennes sont cassées, je continue à les porter parce qu'elles sont extrêmement agréables.
Et voilà, voilà.
C'est là qu'on voit qu'il y a de la technologie derrière, mais en termes de marché de masse, Meta est très très loin avec les Ray-Ban. C'est d'abord un gigantesque coup marketing. C'est-à-dire, je crois que sur un an glissant, ils en ont vendu 7 millions. C'est très bien, c'est que dalle, tu vois. Non, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que le Vision Pro, j'entends un narratif depuis ce matin qui est « Ah, mais Apple s'est planté dans le Vision Pro, là où Ray-Ban et Meta ont réussi dans les lunettes. » C'est quand même pas du tout le même usage.
Non, c'est pas
le
même truc.
C'est des technos qui vont être utilisés, qui sont un peu similaires, mais c'est quand même dire « Ah, regardez, Wembanyama va en finale alors que Dupont n'est pas en finale NBA. » Oui, c'est pas le même match, c'est pas le même sport. Ça a rien. Je veux dire, ça, c'est un truc que tu mets dans un contexte pour faire de la créativité ou de l'immersion. Les lunettes, c'est un truc que tu portes tout le temps pour avoir une assistance. Bon. Mais ça m'inquiète pas trop qu'Apple soit en retard. Paradoxalement, le retard pour moi chez Apple, c'est bon signe. Là où ils m'inquiètent, c'est quand ils essaient d'avoir un coup d'avance sur le marché, parce que c'est pas leur ADN. Si tu regardes l'Apple Watch, elle sort un an et demi après la Samsung Watch. Et tu vois, venir, c'est pas pour ça que derrière ils ont pas terrassé le marché.
C'était en 2015, hein, l'Apple Watch.
Ouais, 2015, et je crois que c'est début, c'est avril 2013 ou quelque chose.
Oui,
2013 pour Samsung.
Oui. Et souvent, Samsung essuie les plâtres, hein, d'ailleurs.
Bien sûr. Et la manière sur les écouteurs, Samsung sort ses écouteurs bien avant les AirPods, et puis ça marche. Parce que, un, c'est Apple, donc ils ont une image de marque, machin, et de deux, ils sortent des très bons produits.
Ils vont réitérer ça sans doute avec l'iPhone pliant. Hein. Je rappelle que Samsung, ça fait 10 ans qu'ils sortent un téléphone pliant.
Ils arrivent une fois que l'usage existe, et là, ils tabassent tout. Donc, je ne suis pas très inquiet. Après, est-ce que ce sera vraiment un marché très différent des montres? À l'époque, on disait que rien pouvait remplacer une vraie montre, et que c'était moche, et que de toute façon, ça faisait un écran en plus, pas nécessaire. On aura pour moi exactement les mêmes remarques avec les lunettes. Moi, je pense qu'il n'y aura pas une différence majeure et que ça va s'adopter très bien de la même manière. Je ne sais pas si c'est pour le plus grand bien de l'humanité, mais en tout cas, ça existera. Je ne vois pas de différence.
Et d'après ce que j'ai compris, Fred, en plus, Apple essaie de se positionner sur du haut de gamme avec ses lunettes.
Oui, sans doute.
C'est-à-dire qu'on n'aurait pas du plastique léger, on aurait des matériaux assez nobles. Assez quali, en fait. Mais Apple n'est pas un fabricant de lunettes. Tu vois.
Oui, mais
est-ce que si t'es prêt à porter sur ton nez des lunettes Apple qui...
Le vrai pari, c'est ça. C'est l'intelligence de Meta, ça a essayé de s'associer à
l'usage. Parce que je pense que technologiquement, ces lunettes sont formidables. Tous les produits tech d'Apple sont vraiment de bonne qualité. Mais est-ce qu'elles seront assez belles pour qu'on puisse les chausser?
Mais justement, quand Mark Grumman dit, le défi d'Apple, c'est faire comme la montre, transformer un objet un peu traditionnel en objet technologique de désir et tout ça. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est la partie santé. L'Apple Watch, pourquoi elle s'est aussi bien développée, c'est qu'aujourd'hui, on voit, alors elle a sauvé des vies, des machins, mais beaucoup de gens qui commencent à s'habituer, ben ils la portent parce que la santé, parce qu'elle, elle, aux États-Unis, les assureurs la donnent gratuitement pour ceux qui donnent leurs données. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Et les lunettes, ça va être pareil parce qu'aujourd'hui, Essilor Luxottica, ils se définissent comme une medtech. Alors correction des yeux et tout ça, mais ça va être aussi des appareils pour mieux entendre. Ça va être aussi des petits capteurs qui vont les regarder dans les yeux si on n'a pas du diabète. Enfin, il va y avoir plein de choses. Et c'est ça où ils sont très forts dans la miniaturisation. Et je pense que si Apple est en train d'attendre, c'est qu'ils veulent pas que ce soit de simples lunettes. C'est joli, j'écoute ma musique, je téléphone, je pose des questions, ça s'affiche et partout. Parce qu'ils veulent aussi cette partie santé et se dire tiens là, il y a sans doute un truc à prendre. On va faire le lien avec la montre. On va faire le lien avec le téléphone, voilà, et on va être dans cette.
Ouais, non, mais
et je pense que la santé.
Mais t'as raison, mais il faut que ce soit des lunettes que tu as envie de porter.
Mais ça, oui, mais c'est
tu vois ce que je veux dire.
Les gens ne portent pas tous des Ray-Ban, hein, t'as des gens qui.
Je trouve qu'il y a quand même une différence entre une montre, tu vois, il y en a certains. Pour beaucoup, c'est un marqueur, tu vois, mais il y en a certains qui portent des montres simplement. Parce que voilà, ils ont l'habitude d'en avoir une.
L'enjeu, ça va être
que là, les lunettes.
Mais ça va être la miniaturisation, parce que tu as bien vu quand on est au CES, on voit les lunettes que font certains Chinois. Ah oui, elles ressemblent à des Ray-Ban, mais les rares sont comme ça. Elles ont un poids, elles sont pas bien, comme tu disais, proportionnées, équilibrées. Les écouteurs, tout qu'on a des impressions d'avoir deux gros trucs derrière les oreilles. Et je pense que le défi sera là. Autre défi aussi, c'est les brevets sur. Parce que là, Essilor Luxottica, et c'est le génie, quelque part la bonne idée de Mark Zuckerberg d'aller voir Essilor Luxottica, c'est tous les brevets sur les verres.
Bien sûr.
Et c'est Luxottica, ils ont plein de brevets sur les, alors les verres correcteurs, mais les choses qu'on va pouvoir afficher dans les verres. Enfin, ils ont plein de technologies.
Ouais, mais je suis sûr qu'Apple travaille avec un verrier hyper connu.
Bah, c'est qui, il y a Zeiss.
Zeiss, bah, mais tu sais que ils ont un partenariat, je crois, avec Zeiss sur le Vision Pro.
Sur le Vision Pro.
Non, mais pour que tu puisses moduler en fait quand
mais certains
Miro,
de leurs appareils photos,
malgré tout, avoir un Vision Pro.
Certains de leurs appareils photos sont pas avec d'un grand justement avec Zeiss ou
non
pas Apple.
Mais tu vois, mais je suis sûr qu'ils vont évidemment ils vont pas y aller seuls dans ces histoires de verre. Est-ce qu'on compte le l'historique qu'ont des Zeiss ou des Luxottica sur enfin tout ce qui est sur les verres, les bronzés, les machins.
L'impact, il est quand même fascinant parce que pour faire un tout petit peu de sortir un petit peu du champ, il faut quand même se rappeler que la vision et l'audition, pourquoi est-ce que c'est aussi proche du cerveau? Parce que c'est justement nos deux sens, parmi nos cinq sens, certains en ont six, qui ont besoin de la latence la plus faible. C'est pour ça que l'évolution, tout au fur les millions d'années qui nous ont précédés, ont ramené
au plus près de la machine, en fait.
Au plus près de la machine. Et donc, s'ils arrivent à ce pari, on vient de parler d'intelligence artificielle en permanence, c'est là où on aura une intégration au plus proche. Donc on est quand même dans un monde quasiment bionique, pour ceux qui se rappellent de Super Jimmy de nos enfances. Enfin, c'est vraiment ça.
Steve Austin.
Avec ce bruit métallique qu'on connaît tous. Donc, je pense que là, il y a un côté presque un peu anthropologique qui est très intéressant.
T'as pas connu, toi, Steve Austin?
Steve Austin, l'homme qui valait
le milliard. Ça, c'est dur, André.
Vieux, là.
Ça, c'est très, très dur.
Ça, c'est dur,
ouais. Steve Austin, qui était le héros.
J'ai connu les Mystères de l'Ouest. C'est un peu.
C'était la même époque.
Ouf, ça me rappelle. Mais t'as dû regarder ça en DVD, je pense, les Mystères de l'Ouest.
Non, ça passait sur France 3.
Il y avait un militaire parachutiste qui a un accident et en fait, on lui remplace ses deux jambes par deux jambes.
Non, mais j'ai une histoire. Le générique, tu le vois sur la table d'opération. J'ai l'idée.
Et 3 milliards, c'était pas cher, d'ailleurs, quand on voit tous les parachutistes aujourd'hui. On aurait dû acheter à l'époque.
Ouais, c'est vrai. Je suis sûr que l'Optimus en développement coûte plus cher que 3 milliards.
Des yeux, des machins.
Bon, vous savez quoi? On va rester dans cet univers d'objets connectés bourrés d'IA, puisque après cette petite pause, on s'intéressera à un autre projet, celui de Meta, qui justement, et on l'a évoqué il y a un instant, cartonne avec ses Ray-Ban Meta, mais aurait dans ses tiroirs un projet de collier IA. On vous en parle dans quelques instants. Toujours André Losgood-Pietri qui est là, Clément David et Frédéric Simotel. Petite pause et à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne, 20h01. Bonne soirée, merci d'être là. Merci de nous écouter ou de nous regarder chaque soir. On débrief l'actu tech pendant encore 30 minutes en ce mardi avec André Losgood-Pietri qui est toujours là, Clément David et Frédéric Simotel. Après Anthropic, après les rumeurs concernant les futures lunettes d'Apple, je vous invite maintenant à évoquer le prochain projet de Meta qui serait de sortir, un collier connecté. Selon la presse américaine, Mark Zuckerberg travaillerait donc sur un pendentif couplé à une intelligence artificielle. Pour faire quoi exactement? Les explications d'Anthony Morel.
Ce sera un petit accessoire qu'on pourrait porter soit autour du cou, soit sous forme de pins, et qui serait doté de capteurs, de micros, peut-être même, dit-on, d'une caméra, et qui serait capable d'écouter et d'analyser tout ce qui se passe autour de moi au long de la journée avec une IA qui pourrait m'assister, répondre à des questions que je lui pose. Alors, on n'a pas beaucoup plus d'informations parce que c'est une note interne de chez Meta qui a fuité dans la presse américaine, mais ça semble assez cohérent parce que Meta a racheté il y a quelques mois une entreprise, une start-up qui s'appelle Limitless et qui est spécialisée là-dedans. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent à la télé, les images que l'on voit, ce sont des images de ce petit pendentif Limitless. On n'a pas encore celle de Meta, évidemment. En gros, les petites micros embarqués, ce qu'ils vont permettre de faire, c'est vous sortez d'une réunion. Ah bah oui, alors cette réunion, qu'est-ce qu'il a dit Jean-Pierre? Déjà, je me souviens plus. Vous allez avoir un résumé. Ça peut être, ah mais je me souviens plus. J'ai croisé un gars là, c'était sur ce grand salon il y a 3 mois. C'était un directeur marketing d'une boîte qui faisait de l'intelligence artificielle. Et l'IA va vous retrouver la conversation. Si on imagine qu'il y a une caméra, ce dont on n'est pas sûr, ça pourrait même aller jusqu'à le collier qui vous dit, ah là, t'as oublié tes clés à côté du canapé, tu ferais mieux d'aller les récupérer, sinon tu seras embêté.
Mais il n'y a pas de caméra.
Pour l'instant, on n'est pas sûr, en fait. Ça, on sait qu'il y aura des micros et des capteurs. et il est possible qu'il y ait une caméra. Encore une fois, on n'a pas encore toutes les informations. Ce qui est sûr et ce qui est intéressant, c'est la tendance derrière. C'est mouchard partout tout le temps, mais c'est pas les seuls à travailler sur le sujet. Vous avez Apple, il y a eu des rumeurs sur le fait qu'ils étaient en train de travailler sur un collier ou un pendentif. On sait qu'OpenAI qui travaille sur une galaxie d'objets IA avec Johnny Ive, notamment l'ancien directeur du design chez Apple, travaille aussi sur un pendentif parmi plein d'autres objets. Donc c'est un peu le nouveau form factor qui embarquerait l'IA, sur lesquels tous les géants de la tech travaillent et qu'ils vont essayer de nous vendre à tout crin.
Voilà, Mark Zuckerberg, on ne l'arrête pas. Il a, j'imagine, un projet toutes les minutes. Ça coûte quelques dizaines de milliards à chaque fois, d'où quand même les frissons de son board, hein, qui voilà, n'est pas toujours d'accord avec, on va dire, ses décisions. Mais en tous les cas, il y aurait, alors pour l'instant tout ça est confidentiel, mais on se murmure que Meta pourrait sortir cette espèce de collier, de pendentif, qui...
Parce que je pense qu'on peut le clipper sur sa veste, enfin voilà.
Voilà, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus.
Comme ta Légion d'honneur.
Exactement. Qui arrive.
C'est sous peu, là.
Sa médaille d'être en 30 boîtes.
Ouais.
Eh oui, monsieur.
Il y a une médaille ?
Mais évidemment.
Okay. Et pour les 3 ans ou 4 ans de Tekken Co, c'est possible, une petite médaille, un truc ?
Alors là, c'est beaucoup en chocolat, pour commencer. Alors non, plus sérieusement, ce petit pendentif, la question qui se pose, mais qui s'est posée déjà avec les lunettes, finalement, c'est que ça récolte des données, et ouais, ce pendentif...
C'est ce qui intéresse Zuckerberg. Hein,
c'est ça.
Tellement le matériel en lui-même, hein, c'est récupérer des données...
C'est récupérer toute l'information, et améliorer toutes ces IA, évidemment, les entraîner pour qu'elles puissent avoir un maximum de data, hein, c'est ça, André, j'imagine.
Oui, alors... Quelque part, je suis pas un admirateur de Zuckerberg, mais point numéro un, dans ce monde de grands paris calculés, celui qui essaye pas, il est sûr de perdre. Donc, on ne va que réussir si on fait ce genre de paris, et aujourd'hui, effectivement, les paris, c'est à coup de milliards. La deuxième chose, c'est qu'il s'adresse quand même aujourd'hui à un marché qui est une espèce de marché clandestin. Tout le monde aujourd'hui, dans les réunions, que ça soit dans les réunions vidéo et autres, met en route son petit assistant IA pour faire des notes de réunion. On va tous à des conférences où on se dit, mais finalement, on a entendu énormément de choses. Quelle est la substantifique moelle? Et alors, si en plus, ça peut être personnalisé, donc quelque part, je pense qu'il est juste en train de finalement de rendre transparent ce qui aujourd'hui est en train d'être fait de manière un petit peu au noir. Après, l'enjeu sur la vie privée, mais c'est la même chose sur les lunettes. C'est-à-dire aujourd'hui, on enterre la vie privée. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu, les avions depuis 2-3 mois maintenant, la première annonce du steward ou de l'hôtesse de l'air, c'est ne vous n'êtes pas autorisé à prendre des vidéos ou des photos, sauf si on vous y autorise. Ça, c'est clairement destiné aux gens qui ont des
lunettes,
des personnels de bord, en plus.
Et voilà, absolument. Donc, je pense que c'est ce genre de pari qu'est en train de faire Zuckerberg. Évidemment, l'enjeu pour lui, c'est de récolter des datas, de savoir comment ces datas sont personnalisées en fonction des utilisateurs. Donc, oui. Alors, c'est cohérent avec toute la stratégie de Meta, qui est finalement de personnaliser un maximum son audience.
Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que, en fait, Meta avait acheté assez discrètement en décembre dernier une start-up qui s'appelle Limitless et qui avait conçu une espèce d'appareil qui prenait la forme d'un petit microphone Bluetooth et qui pouvait être porté autour du cou, fixé sur un vêtement et qui enregistrait nos échanges vocaux pour après les intégrer dans une IA. Et je sais pas, moi, par exemple, à la fin de cette émission, j'ai ce petit micro, je dis fais-moi un résumé des 4 points forts de Tech & Co. Il y a l'IA réécoute tout ce qu'on a dit et nous sort les points hyper importants.
C'est ce que fait Claude, hein, le petit boîtier Claude.
C'est Claude, c'est exactement ça. Voilà.
Oui, mais
donc on peut imaginer qu'après Limitless, donc cette start-up achetée par Meta, Meta veut passer à la vitesse supérieure. Clément, je te vois sourire.
Non, mais oui, mais en fait, tout est vrai. Tout ce qu'on a dit, etc., c'est la pire boîte pour le faire. Meta, avec le track record qu'ils ont de, tu vois, Cambridge Analytica, tout ce qu'ils font avec les données, ça, moi, je serais le congrès américain, je leur ai dit, vous rachetez pas cette boîte. Vous n'allez pas faire ça. En fait, ils peuvent faire le meilleur produit du monde. Ils peuvent concevoir
un produit génial. Mais ils ont quelques casseroles, quoi. C'est ça le problème.
Jamais de la vie, je leur confie quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un peu Gargamel qui ouvre un village vacances pour les schtroumpfs. Tu vois, qui dit, allez les mecs.
Allez, vas-y.
Ok, il y a un passif. Mais mon village vacances, c'est génial. Mais je vais pas y aller. Et tant pis, tu vois, j'irai en Bretagne et je déteste la Bretagne et j'irai plutôt qu'au village Gargamel.
comme vacances de Gargamel, c'est sûr. Donc,
oh, enfin, t'exagères avec la Bretagne, c'est sympa quand même.
Après, je suis porteur du Stade Malherbe de Caen, mais c'est une autre discussion.
Oui, oui, c'est
explique.
On est quand même loin de la Bretagne. Ah,
c'est vrai que t'es pour Brest. Ouais, bref, non, le truc c'est.
Je vois bien ces petites donc, en fait, flèches empoisonnées.
Oui, c'est vrai.
Mais mon pendentif enregistre tout et on verra le jour.
Nous, avec André, du moment qu'on parle pas de la Corse, tout va bien, on est sage.
Non, mais c'est. Enfin, on en revient un peu à la discussion d'avant. Je pense que là où tu as raison, c'est que là où la culture d'Apple est d'attendre l'usage, Meta, ils ont la culture de tenter des trucs, on jette le mur contre le mur, on voit ce qui colle. Et c'est un peu, je le dis tout le temps, c'est ce que Riolo disait sur Neymar, et tu recrutes Neymar, c'est pour qu'il tente des trucs. Oui, parfois il rate ses dribbles, mais en fait c'est Neymar, tu veux qu'il tente des choses.
Bien sûr.
Là c'est un peu pareil, il s'est planté sur le métaverse, ça a mis sa boîte en risque à zéro. C'est pas grave, il tente de nouveaux paris. Moi je le suivrai pas sur celui-là, mais pourquoi pas, tu vois.
Mais alors, juste après, pour donner la parole à Fred et à André, admettons que tu aies quelqu'un en face de toi qui est ce petit pendentif.
Mm-hmm. Et bien la question c'est l'autre.
Voilà, parce que toi tu ne le portes pas parce que tu sais que c'est méta et tu te dis jamais je rentrerai là-dedans. Mais tu vas être un acteur de ce produit-là, forcément. Mm-hmm. Parce que, admettons que ça marche, tu vas rencontrer des gens qui l'auront.
Et surtout que tu
comment
le vois.
Comment tu réagirais?
Tu le vois
c'est
déjà.
Ça la question.
Moi j'ai fait des rendez-vous avec des gens dans le cadre de mon entreprise ces derniers temps et au bout d'un moment tu dis, ça m'est arrivé deux fois ces semaines où il y a une barre verte, etc. Au bout d'un moment tu leur dis, mais attendez, cette barre qui clignote un peu là. Le mec dit, bah j'enregistre la réunion qu'on a en train d'avoir dans la salle, c'est pas une visio, hein, c'est. Je leur dis, bah. Vous êtes prié de demander avant, tu vois. Et en plus, les gens n'ont pas cette notion aujourd'hui.
Ouais. Moi, j'ai fait avec Claude, je dis à chaque fois.
Ouais, mais tout le monde n'a pas cette correction. Encore plus si ça devient de la vie quotidienne où tu ne vas pas le dire 80 fois par jour. Et je peux te dire que moi, ce qui va me faire marrer, c'est les négociations côté RGPD. RGPD n'est absolument pas conçu aujourd'hui pour encaisser ce genre de système. Donc, ça va être des nouveaux usages, ça va être des nouvelles négociations avec l'UE, etc. À mon avis, ça va être sans fin.
Mais je trouve ça, quand je disais qu'il met de la transparence, que ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis fasciné de voir que depuis 3-6 mois, personne ne me pose la question quand on démarre un Teams, un Zoom ou un Google
Meet. Est-ce que t'es OK pour qu'on enregistre?
Est-ce que tu es OK? Et il y a maintenant systématiquement le petit compagnon IA qui enregistre.
Ça se faisait avant.
Maintenant, ça se fait, tu le vois, hein. Quand tu participes à la réunion, tu vois qu'il y a un record.
Mais c'est presque devenu aujourd'hui une étiquette que de le faire, et tu te sens être le mauvais coucheur. Alors, moi je le fais, finalement, c'est quand même ultra pratique. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'usage, le pain point, comme on dit, il est tellement fort que ça va dérouler. Donc moi je pense que ça va avoir un succès incroyable. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que je disais avec la vie privée. C'est que le fait que Meta fasse ça soit à la fois pas une surprise, mais... Notre vie privée, elle est condamnée.
Mais sur Teams, ça a changé en quelques mois. Il y a quelques mois, on te disait, ça vous enregistre pas si j'enregistre et tout ça. Maintenant, on dit plus rien.
Non, on dit plus rien.
Ça dépend des gens. Hein. Certains le disent, mais
moi, on m'a rarement posé la question. Et ce qui est assez étonnant,
ça vous dérange pas si on n'enregistre pas justement.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah bon, vous enregistrez.
Mais là, aujourd'hui, je pense que
qui va faire les notes.
Meta, ils sont obligés d'y aller. Ils sont obligés quand on a un OpenAI qui est en train de dire, je réfléchis avec Johnny Ive. Quand on a un Apple, on va pas revenir sur l'histoire des lunettes. Quand tu as un Google qui a plein de données contextuelles, là, quand tu réfléchis à Google, ils ont Android, ils ont Maps, ils ont Gmail, ils ont qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Ils ont Gemini maintenant. Donc ils sont hyper forts dans cette partie-là. Il leur manque juste les lunettes. Ils étaient un peu ratés, mais ils réussiront à travailler. Donc ils sont obligés d'y aller. Meta, ils ont pour eux. Alors ils ont contre eux effectivement l'histoire de la vie privée, parce qu'alors là, ils traînent une réputation. Faut voir si parfois aux États-Unis on oublie vite, hein, mais nous un peu moins, mais aux États-Unis ils oublient vite. Et puis ils savent aussi la partie le mélange hardware IA, ils sont pas mauvais hein, pour mixer tout ça, donc ils peuvent avoir cet atout, mais ils sont obligés d'y aller. Et tout ça, c'est ils veulent récupérer. Pour moi, c'est on parlait des données personnelles, mais c'est les données contextuelles, quoi. C'est vraiment pouvoir te dire avoir. Personnaliser, oui, mais personnaliser dans un contexte, t'es au restaurant, voilà, on va encore plus te personnaliser.
LinkedIn te permettait déjà de voir le graphe social de tes connexions. Là, on va pouvoir voir de manière beaucoup plus subtile tes interactions avec qui tu t'entends bien, avec qui ça se passe bien, dans un contexte professionnel, c'est hyper puissant pour
bien sûr.
Et inquiétant.
Qui te dit t'as ce passe-pendentif dans un contexte personnel privé?
Oui,
tu peux l'avoir aussi, tu l'oublies par exemple, tu vois, enfin, je sais pas trop comment ça va marcher ce truc-là. T'es dans ta voiture, tu passes des calls, perso, si t'as encore ce pendentif, il va tout enregistrer en fait.
Il y a juste une précision sur les entreprises. Elles vont s'approprier ça à une vitesse folle. T'as beaucoup de start-up françaises très connues, que je vais pas citer, qui, des nouvelles plutôt vagues IA, etc., qui disent en interne, on vous prévient, quand vous êtes sur Slack, l'outil de messagerie interne, tout est enregistré, analysé par les bots, etc., etc., l'IA, pour pouvoir être plus efficace, pour faire remonter la donnée. Donc, aucune de votre conversation ne sera privée dans le cadre de l'entreprise. Par ailleurs, on vous demande d'avoir le moins d'interactions hors Slack possible. Éviter les réunions, éviter les discussions informelles, etc., etc. Les
entreprises... Oui, pour conserver toutes les données, en fait.
Exactement. Mais dans ce monde-là, où ça va devenir des politiques d'entreprise assumées, au même titre qu'avant, on disait « Ah, on ne fait pas de mail parce que ça fait perdre du temps », là, on dira « N'ayez pas de conversation informelle, tout doit pouvoir être enregistré dans le but d'être le plus efficace avec les agents possibles, etc. » Assez terrifiant, quand même. Oui. Ça va devenir des politiques.
Juste un dernier mot, je trouve que là, on a peut-être un signal aussi dans la Silicon Valley que les LLM, ça devient, enfin les modèles, ça devient une commodité et que le prochain marché, le prochain enjeu, c'est peut-être les capteurs, tu vois, qui est un
C'est le monde réel, c'est notre avenir.
Tu vois, Pardon ?
C'est le vrai monde réel.
Je pense que là aussi, dans la Silicon Valley, on est. Alors c'est marrant parce que ça rejoint tous les sujets que l'on a entre entreprises qui entrent en bourse, OpenAI,
et je reviens sur mon sujet du sens. Hein. On a l'intelligence et on va avoir de plus en plus les connexions avec nos cinq sens qui vont permettre en fait d'avoir ces interactions. Et c'est ce qui nous a permis en fait de progresser extrêmement vite parce que très vite on avait le feedback loop, la réaction sur nos tentatives.
Et c'est celui qui captera le mieux les données contextuelles.
Le pape a de la matière première pour encore 2-3 ans cycliques.
Ouais, c'est clair.
Mais ton point sur la réglementation est très puissant parce que ça me fait penser au fait, je l'ai cité plusieurs fois sur ce plateau, que quand en 2015, je crois, Facebook rachetait WhatsApp, la Commission européenne avait dit aucun problème, etc. Il n'y a pas de concurrent. On n'est pas sur le même marché que Facebook Messenger. Ils avaient écrit ça noir sur blanc, page 116 des attendus du truc. Donc, on voit à quel point les régulateurs n'avaient rien compris. Là, en fait, ça montre encore plus l'importance non pas d'avoir de la réglementation extrêmement détaillée, mais des régulateurs qui vont pouvoir en temps réel comprendre toutes les implications stratégiques, sociologiques, éthiques de ça. Ouais, c'est ça qu'il nous faut. C'est pas une lecture bête et juridique, mais il nous faut une lecture intelligente et sociologique de ce genre d'outils.
C'est une petite révolution, en fait, tous ces objets connectés qui ont des micros, qui ont des caméras. On parlait des lunettes tout à l'heure, même combat. Hein. Tiens, puisqu'on parle de lunettes, tout à l'heure, je recevrai un porte-parole de Samsung, parce que Samsung a annoncé avec Google, une paire de lunettes connectées. On la découvrira tout à l'heure donc avec Philippe Bloch qui sera
l'aspect santé, sécurité de tous ces objets aussi derrière. Il y a la sécurité des données, mais comment ça va nous aider dans la vie, dans notre santé, notre sécurité, être localisé s'il y a un problème.
On revient en Europe avec une décision qui devrait être communiquée demain et qui est très attendue, notamment par les opérateurs satellites américains. Parce que, en fait, l'Europe souhaiterait fermer son ciel à Starlink et Amazon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de cette information, parce que, et là ça va faire plaisir à André qui a un grand sourire avec cette info, c'est tombé en fin de semaine et je voulais qu'on en parle ce soir parce que finalement aujourd'hui, le satellite, et notamment les satellites basse orbite, c'est un peu le Far West dans les ondes. Tout le monde lance ce qu'il veut, c'est le premier qui est arrivé qui bénéficie en fait du spectre de fréquence.
Oui, en plus quand ils sont quand tu dis tout le monde fait ce qu'il veut, dans l'espace, ils font aussi ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, en général, la déontologie spatiale veut que quand tu es arrivé le premier, c'est toi qui as le rayon, on va dire.
Parce que tu es arrivé le premier.
Parce que tu es arrivé le premier.
Et les autres doivent s'adapter.
Et quand les autres, s'il y a un autre qui passe en dessous, il doit s'adapter, il doit éteindre son signal, et puis hop, ensuite, une fois qu'il est plus dans le cône, là, il peut sortir. Et Starlink et tout ça.
Ils s'en foutent.
Ils s'en fichent complètement, ils n'éteignent jamais leur signal.
Et donc, l'Union européenne va peut-être, ou sans doute demain, annoncer que tout ça c'est terminé et que 2/3 des fréquences qui viennent du ciel seraient réservées à des projets européens. Ouais. Ça veut dire qu'il ne resterait plus 1/3 du spectre des fréquences en Europe réservées à Starlink et Léo. Et alors là, je vous dis pas, c'est la pagaille la plus totale, parce que effectivement, Elon Musk ne peut pas entendre ce type de choses. C'est pas possible. Enfin, pour lui, c'est inenvisageable.
Oui, et pour bien préciser, c'est 1/3 pour des fréquences et des usages gouvernementaux, etc. Et puis pour Iris Carré, 1/3 pour des opérateurs européens émergents. Et donc, comme tu l'as dit, ce dernier tiers
pour...
Allez-y, candidatez,
pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde.
Ouais.
André, et après.
Mais enfin, on a envie de dire enfin l'Europe qui, hein, c'est pas la poupée qui sait dire non, c'est l'Europe qui sait dire non. Et surtout en ce moment, il faut bien voir la pression qu'il y a sur la Commission européenne et sur toutes les institutions européennes, où vous avez un camp de ceux qui disent oulala, il faut surtout faire plaisir aux Américains qu'on fasse l'accord sur les droits de douane, où en fait nous on a 15% et eux ont rien, donc un accord complètement léonin qui a été. Et certains qui disent non, non, au contraire, pour se faire respecter, il faut. Et là, pour la première fois, on prend le risque d'une confrontation, et ça fait quand même maintenant 2 ans, enfin depuis Trump 2, qu'on n'a pas osé le faire. Donc ça, c'est formidable. Après, il faut quand même un tout petit peu modérer la bande dont on parle, c'est celle de 2 GHz. Oui. C'est celle qui est idéale, notamment pour les connexions direct-to-device.
Oui. Et notamment le téléphone.
Où les constellations vont devenir des concurrents directs
des opérateurs
télécoms. Ouais. Donc là, en fait, on n'a pas de constellation, nous, mais on a quand même encore beaucoup d'opérateurs télécoms et qui sont des entreprises puissantes en Europe. Alors, beaucoup trop fragmentées, etc. Mais, donc, en fait, là, on réagit parce que le cœur, on dirait en France, dans une autre doctrine, nos intérêts vitaux sont menacés. Donc, heureusement qu'on fait ça. Je crois que, par contre, il va y avoir une bataille de lobbying absolument incroyable. Donc, il faut rester extrêmement prudent. Est-ce que, véritablement, on aura le courage de faire de garder ces 2/3, un tiers gouvernement, un tiers acteur privé européen, réellement réservé?
Oui, parce qu'on imagine qu'ils vont attaquer juridiquement.
Évidemment, voilà, évidemment.
Oui, parce qu'il y a déjà le Washington qui dit « attention aux représailles ».
En fait, il y a des représailles dès qu'on se lève le matin. Tu prends un café représailles, tu machins représailles. À un moment, je veux dire, c'est, puis Washington, on va voir ce qui se passe avec les midterms, mais Washington et Washington, dans les 2-3 ans qui viennent, ça sera pas forcément la même chose, tu vois.
Ouais.
Mais il y a un truc qui est,
peur sur la ville à Bruxelles. Aujourd'hui, Bruxelles et les capitales européennes ne sont pas très courageuses.
Même si tu as l'autre bord qui repasse aux États-Unis,
on redescendra pas comme à l'ère Joe Biden, je pense.
Ouais, puis même Biden Obama commençait déjà.
Biden avait la même stratégie très agressive des Européens, mais beaucoup plus polie, et il nous insultait pas tout le matin.
Et puis le coup des droits de douane, c'est quand même arrivé dans un monde où il y a aucune négociation possible. Enfin bon, c'était quand même un paradigme assez étrange. Mais en tout cas, le truc, c'est, je suis assez d'accord avec toi, mais encore heureux, tu vois, que il nous reste pas grand chose. Il nous reste les ondes qu'on a le droit d'utiliser sur notre sol ou pas, quelques opérateurs téléphoniques et machin. On va peut-être essayer de protéger ça. Et pour une fois, si le légal pouvait se mettre au service de la protection de la souveraineté plutôt qu'au service de casser les pieds à tout le monde, ce serait pas mal. De l'autre côté, légaliste européen. Ensuite, il y a une question qui était intéressante, qui était posée, qui était de dire oui, mais vous allez retarder sur les zones blanches potentiellement l'arrivée de Starlink. Et donc, ça va handicaper pour un certain nombre de gens l'accès aux télécommunications parce que c'était la solution pour que les zones blanches soient couvertes, etc., etc. Oui, mais en fait, si on fait pas ça, à un moment, Iris Carré verra jamais le jour. Tu vois, c'est-à-dire que si manifestement on est en retard, ben, quand t'es en retard, il faut bien que tu prépares un peu le terrain pour, limiter la casse le temps que Iris Carré puisse se pointer. Et c'est un peu ce qu'avait fait la Chine, on en parlait avec Huawei, où la Chine avait dit, puisque on s'est fait sortir on n'a plus accès à Android et qu'il faut que Huawei ait son propre OS, merci, le temps qu'ils sortent Harmony, on va leur arranger le marché intérieur pour qu'ils puissent encaisser le changement de paradigme et puis qu'ils puissent revenir 2 ou 3 ans plus tard. Donc à un moment, oui, on va prendre du retard sur la couverture des zones blanches, mais si ça peut permettre à un projet européen d'arriver, ça sera pas mal. Moi, je vous le dis, si on parle de comment ça va se passer, qui va craquer en premier, je vous le dis, si ça craque, ça sera du côté de l'Allemagne, comme d'habitude.
Non, puis il y a cette partie souveraineté aussi. On a vu ce que les Américains ont fait quand ils ont coupé le signal avec Starlink et tout ça. Donc aujourd'hui, Européens, on a enfin compris que...
Je suis très partagé parce que je pense qu'en fait, on devrait en faire un non-événement. Tu as tout à fait raison. C'est pas du tout un acte de bravoure. On est juste en train de faire de la politique industrielle intelligente. Donc en fait, en faire trop voudrait presque dire que soudain les Européens presque s'excuseraient d'être intelligents. Ça, c'est une chose. Là où je suis pas tout à fait d'accord, j'étais en Allemagne là les 2 derniers jours, c'est que malheureusement tu parles d'Iris Carré, mais à nouveau on est en train de faire une erreur complète. Alors c'est assez surprenant parce que j'étais à un sommet technologique, je fais une toute petite digression. En France, on a parlé Choose France. Je rappelle quand même que c'est Choose France. Je suis très fier de mon pays. Et ben les Allemands, ils avaient à peu près la même chose, c'était Choose Allemagne. Donc on est en train de refaire la même erreur et sur les constellations.
Bataille d'ego et on a on a du mal à...
Il y a vu en Allemagne comme une constellation française.
Ah oui.
Et les Allemands sont en train d'investir dans ce qu'ils appellent le réseau numéro 4 de constellation pour la Bundeswehr, entièrement allemand.
Donc c'est un réseau qui sera concurrent d'Iriscaré. C'est ça.
Donc, on
s'intéressera à Iriscaré pendant Vivatech. On aura un porte-parole d'Iriscaré qui sera sur le plateau.
Non, mais c'est hyper important parce que l'erreur qu'on a faite,
c'est en Paris Air Forum, 15 juin.
Oui, voilà, Paris Air Forum.
Iriscaré, l'erreur qu'on a faite, je pense, c'est que ce n'est pas assez disruptif. C'est-à-dire, on a voulu faire un concurrent à Starlink. Ce qu'il faut, c'est inventer le coup d'après. Et donc, les Allemands se sont engouffrés dans la brèche en disant, oui, ben attendez, si c'est juste pour faire Starlink, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de mettre des milliards. Ce qui est un argument que je pense qu'on peut entendre. Ah, c'est qu'aujourd'hui, c'est le cas. Et en plus, avec notre capacité d'exécution qui est pas très très forte.
On n'a pas beaucoup parlé d'Amazon ce soir. J'aimerais qu'on termine là-dessus, et notamment les déboires de Jeff Bezos. Alors, je vous rassure, les déboires de Jeff Bezos...
Il est ruiné.
C'est pas...
Il n'est pas ruiné.
Il a pas appelé son banquier pour dire qu'il était à découvert ou négocier un petit découvert. Non, c'est pas ça. Mais malgré tout, vous le savez, dans cette course à l'espace, là, Jeff Bezos est un peu dans la sauce, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et oui. Pourquoi tu ris?
Non, mais j'ai rien dit, moi j'écoute sagement.
Exactement. Je sais pas si vous avez...
C'est plus jeune que lui encore.
Oui, c'est ça. Et parce que derrière moi, et je sais pas si vous avez vu ça à la télé, mais il y a eu donc un lancement de...
New Glenn.
De Blue, enfin oui, de New Glenn, qui est la grosse fusée Blue Origin de Jeff Bezos et d'Amazon, et qui n'a même pas réussi à décoller, en fait. Au démarrage, elle a complètement explosé en faisant une explosion, mais qui a endommagé en fait tout aux alentours et notamment le pas de tir. Ce qui fait que, alors c'est une très mauvaise nouvelle, un pour Jeff Bezos qui n'est pas véritablement prêt à lancer ses milliers de satellites Léo qu'il avait prévu de lancer. Alors heureusement il y a Arianespace, heureusement il y a d'autres lanceurs, donc c'est plutôt bien pour nous, mais ça ralentit en fait le déploiement de sa constellation. Et c'est pas bien aussi pour la NASA, parce que la NASA comptait beaucoup sur Jeff Bezos et sur Blue Origin pour être un petit peu le faire un peu l'équilibre avec Elon Musk et Starship et SpaceX.
C'est un élément cœur du projet Artemis pour le coup qui est de retourner sur la Lune. Normalement, on devait premier vol habité 2027.
Ouais.
Ils savent que ça y est, c'est foutu.
Et là, ils doivent regarder le calendrier en se disant.
Ouais. Ils regardent les Chinois surtout. Il y a aujourd'hui, quand tu lis les experts, il y en a beaucoup qui te disent, mais attendez, si les Américains pensent y être avant les Chinois, ils rêvent. Et le problème, c'est que ce projet Artemis, plus les échecs passent, plus le temps passe, plus il prend du retard, plus le Congrès américain commence à demander des comptes et demander si ça sert vraiment à quelque chose. Après, élément intéressant, on sous-estime, je suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai lu encore une interview là d'un mec qui disait, on sous-estime grandement la complexité de cette rampe de lancement. Et qu'en fait, la vraie catastrophe, en effet, elle est là. Et il ressortait une citation au moment du lancement du premier Falcon par Elon Musk, qui disait, moi, le seul truc que j'attends et que j'espère, c'est ce serait une réussite si ça abîme pas la rampe de lancement. C'est tout ce que je demande.
Oui, parce que c'est tellement puissant, en fait.
Super complexe.
Ouais, et lui, il en a plusieurs. Alors que Blue Origin, comme tu disais, ils seront obligés de passer par les Européens. Mais ils n'avaient qu'un seul pas de tir. Hein. Donc là, ils ont escalé.
Ouais, et ça va prendre des mois pour tout réparer, bien sûr.
La grande catastrophe de Starship, c'était il y a un an et demi, c'est quand ils avaient également détruit leur pas de tir. Parce qu'en fait, un pas de tir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a un système en fait de déversement immédiat de quantité absolument colossale d'eau
pour éteindre, refroidir en fait.
Effectivement, très complexe, très coûteux. C'est de l'infrastructure lourde à construire. Donc c'est surtout ça le pépin industriel.
Là, visiblement, absolument. Ça a pas bien marché.
Oui.
Non, mais ça rappelle qu'on est dans un monde encore. On a l'impression souvent quand on voit tous les lancements SpaceX, les satellites et tout ça. Alors, il faut savoir que c'était des tests qui étaient menés. Il y avait pas les 200 satellites. Ils devaient emmener 200 petits satellites.
Non, il y avait pas de satellites, évidemment. Mais je pense qu'ils imaginaient quand même que la fusée allait décoller.
Ouais, mais là, je trouve que là, ça nous rappelle aussi que cette industrie est encore pas naissante, mais voilà, qui a encore pas mal de soucis. On a l'impression parfois quand on voit les succès de Arianespace, quand on voit le SpaceX qui n'arrête pas d'en lancer partout, que ça y est, on va commencer à rentrer dans une routine. Non, on voit là que y a encore
tu mesures l'avance de SpaceX. C'est-à-dire que c'est pas uniquement ils ont lancé les satellites plus tôt, donc en fait ils en ont 10 000 de plus, mais ils ont un savoir-faire technologique qui est encore à des années-lumière de ce que Amazon peut faire.
Je rappelle que l'année dernière, l'Europe a lancé 0,2% du tonnage envoyé.
Aïe, aïe, aïe. Ça va être la conclusion de ce Tech & Co, ouais, en tout cas de ce débrief. C'est ça, c'est dur, ça.
Ah si, il faut le faire, parce que si on continue à penser qu'on est à la hauteur, là, comme j'ai entendu à Choose France, là où on était très fiers sur Thomas Pesquet, etc. Non, moi je pense qu'il faut absolument que nos astronautes soient lancés avec des fusées européennes et que ça doit être un projet moonshot, mais qui doit être à la hauteur.
La navette
je trouve
Hermès.
Inacceptable qu'on continue à avoir une politique française de l'espace, une politique allemande de l'espace et qu'on laisse la bureaucratie bruxelloise, pardon de le dire comme ça, complètement mettre à côté le projet IRIS-Carré, qui aujourd'hui on va dépenser de l'argent pour faire au mieux ce que Starlink sait faire aujourd'hui.
Non mais ça ne sera pas au niveau de. Et quand tu discutes avec des spécialistes,
il faut remettre à plat complètement ces projets et mettre des gens qui sont des industriels et qui sont capables de faire des grands paris.
Bon, écoutez.
Ça, c'est quand même une conclusion positive.
Ça,
positive.
Ouais, enfin positive.
Ah non, mais si ça, on n'est pas, si on n'a pas un bilan, je pense clairvoyant et sur la situation, on va jamais prendre les bonnes décisions. On va se murer dans nos illusions, les amis.
Paris, si tu attaques l'Europe contre-attaque.
Ah, ça c'est sûr.
Pom.
Voilà, c'est terrible cette blague.
Bon ben voilà.
J'espère qu'elle s'entendra pas au podcast.
On termine avec cette. Non, mais justement, ça sera la conclusion du podcast.
Ah, super. Bien,
évidemment. Merci beaucoup à tous les trois. Merci André Losgood Pietri. À très bientôt de Jedi. Merci aussi à Clément David, président de Théodocloud.
Avec plaisir.
Et Fred, on se retrouve demain.
Demain.
Voilà, Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business.